Nous allons rejoindre Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien.
Hey, salut.
Écoute, Bernie Sanders a fini par jeter la serviette. Quelle leçon tu tires de tout ça?
Ben écoute, Bernie, ce qu'il va avoir réussi, c'est d'avoir tiré le Parti démocrate à gauche plus que jamais, là. Je veux dire, c'est hallucinant de voir comment est-ce qu'en peu de temps, le Parti démocrate a viré à gauche, gauche style, pas Québec solidaire, là, mais style Parti québécois, Parti libéral. Là. Donc, un gros État, tout doit être gratuit, l'éducation doit être gratuite, les soins doivent être gratuits, les dents, tout est gratuit. Là. Et c'est quand même un gros changement parce que Obama, que certains ont considéré qu'il était à gauche, là, je veux dire, si Obama était là aujourd'hui sur la scène, sur la même scène, dans un débat...
Ce serait, il serait considéré de centre-droite.
Ah oui, absolument, absolument.
Obama, là.
Et ce qui arrive, c'est que il a fait peur à ben des indépendants, à ben du monde qui n'aurait pas voulu, qui ne voulait pas voter pour Trump, tu sais, qui n'aime pas Trump, mais ils se disent... On ne peut pas voter pour un communiste comme ça, un socialiste comme ça. Puis d'ailleurs, tu sais, le mot socialiste aux États-Unis, là, c'est pas un beau mot là, pour bien du monde. Tu sais, ici, au Québec, c'est parfait. Là, tu sais, mais non seulement il a eu une influence sur le parti, mais il a même une influence sur Joe Biden, qui lui-même, pour ne pas avoir l'air trop centriste, a souvent dit je suis d'accord avec Bernie sur telle chose, en mettant peut-être des bémols. Et là, la question, c'est... Parce que, tu sais, être nommé à la tête d'un parti, c'est une chose. Et ça se fait avec le vote des membres du parti. Mmh. Ensuite de ça, être élu, c'est un autre chapitre complètement. Là.
Ben, écoute, parce que moi, là, et tu parlais de Biden, je ne peux pas croire que tout ce qu'ils ont trouvé, les démocrates, c'est d'envoyer Joe Biden. Écoute, quand il était vice-président aux côtés d'Obama, il n'y a personne qui le remarquait. C'était nobody. Je veux dire, il n'y a jamais... Je peux pas croire qu'ils sont allés ils vont aller au bat contre Trump avec quelqu'un comme Joe Biden.
Mais tu sais, je veux dire, les pauvres Joe, je leur regarde aller, puis vraiment... Tu sais, il est un peu vieux.
Il est super vieux, il est drabe, il est beige.
Oui, puis il perd la boule un peu aussi.
Ben
là,
oui.
Je veux dire, c'est comme...
Je ne veux pas faire de l'âgisme, mais il y a des gens qui sont très vieux, puis qui ont toute leur tête, puis qui sont... Mais lui, il est comme vieux, là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, puis je pense que il va... J'essaie de l'imaginer dans un débat avec Trump. Puis Trump, tu sais, je veux dire, c'est une bête... De débat, c'est ben une... Oui. Tu sais, il y a bien des défauts, là. C'est capoté, mais il va se faire manger tout rond.
Ben moi, je pense qu'il va le manger tout rond. Puis les démocrates, ils doivent dire, maudit, comment ça se fait qu'on n'a pas Cuomo à la place de Joe Biden?
Ouais.
Tu sais, on peut-tu refaire la course? On peut-tu faire une exception? On est dans une situation exceptionnelle. Tu sais, parce que comment ça qu'ils n'ont pas pensé à Cuomo avant? Comment ça se fait que les démocrates le découvrent actuellement? Je ne comprends pas.
Ben écoute, d'abord, c'est sûr que dans une situation de crise comme on a, puis c'est vrai pour Macron, c'est vrai pour bien du monde là, qui pense, qui ont la chance de passer une heure par jour à la TV dans une situation où tu peux avoir l'air sous contrôle puis être rassurant. Puis tout ça, c'est une opportunité incroyable pour ces gens-là d'augmenter leur popularité. Au point même qu'aux États-Unis, les journalistes de gauche disent hey, ça n'a pas d'allure, on va arrêter de couvrir les conférences de presse de Trump parce que Trump s'en sert évidemment pour... Non seulement pour parler du virus, mais il parle de toutes sortes d'affaires. Écoute, il y a 2-3 jours, il a amené un gars qui s'occupe de l'immigration pour dire comment est-ce qu'il faisait des efforts pour bloquer la frontière aux Mexicains qui importent de la drogue aux États-Unis. Ça n'avait rien à faire avec le virus. Tu sais. Alors, c'est sûr que c'est un gars comme Cuomo, puis moi, je le regarde presque à tous les jours, Cuomo, parce que, un, Il est très rassurant.
Oui.
Deuxièmement, il est très transparent. Troisièmement, il est très humain. Il a parlé du cas de son frère qui a eu qui est pogné avec le COVID-19. Et tu sais, ça le rend très humain. Mm. Quatrièmement, c'est un gars qui est capable de dire « j'ai pas la réponse, je vais vous revenir là-dessus ». Puis cinquièmement, c'est un gars qui a été capable de dire « c'est de ma faute, je me suis trompé dans telle situation ». Et sixièmement, il va dire aussi « là, telle chose, c'est moi qui décide ». Il prend la responsabilité.
Ça m'étonne quand même que tu dises ça, parce qu'on sait là, que tu n'es pas un pro-démocrate, mais quand même, tu reconnais des qualités à Andrew Cuomo. Là.
Oui, tu sais, je veux dire, écoute, je peux te donner tous les problèmes qu'il y avait avec Cuomo. Tu sais, un des plus gros problèmes qu'il y avait avec Cuomo, c'est qu'il n'était pas prêt, là. Je veux dire, l'État de New York n'était pas prêt à une pandémie, alors que tu te dirais, OK, ils ont vécu le 11 septembre, là, ils ont vécu toutes sortes de choses, ils auraient dû être prêts. Mais ça étant dit, je veux dire, ils ont vraiment, Legault, je vais aussi te dire, Legault a certaines de ses qualités-là. T'sais, il est rassurant,
il est capable de dire, je me suis trompé.
Ouais. Je trouve que dans la crise actuellement, il n'a pas été très transparent, c'est à tout prix pour y arracher des chiffres puis des projections puis tout ça.
Mais finis par le faire.
Et l'autre chose qui m'a un peu surprise hier, c'est-tu hier avant-hier, quand il a dit, le gars a dit, ben là, pour telle situation, je vais avoir besoin du OK du docteur Arruda. Tu sais, je veux dire, le docteur Arruda, on ne l'a pas élu, là. C'est pas lui qu'on a élu, c'est le gars. Tu sais, alors, le gars peut dire, je vais consulter, je vais faire le tour de mon équipe. C'est moi qui vais décider. Au lieu de dire, ben là, c'est comme Arruda qui va décider. Ça j'ai trouvé ça un peu dur. Alors, tout ça pour dire que, tu sais, finalement, Sanders va avoir eu un effet énorme sur, non seulement sur le Parti démocrate, mais sur Joe Biden, qui lui-même maintenant propose des augmentations d'impôts faramineuses. On parle de 3 trillions de dollars sur 10 ans, ce qui est deux fois plus que ce que Hillary Clinton avait suggéré en 2016. Il propose que, évidemment, comme je disais tantôt, tout soit gratuit.
Moi, je trouve que c'est un parti en déroute. Le Parti démocrate, là, que tout ce qu'ils ont trouvé, c'est Joe Biden, c'est un parti en déroute. Et écoute, si il gagne encore Trump, j'espère qu'il va avoir vraiment un électrochoc, là, puis une prise de conscience chez les démocrates, comme quoi ils sont déconnectés, là.
Je pense qu'ils auraient. C'est sûr qu'avec, d'après moi, avec Bernie, là, il aurait été lavé complètement. Un peu comme le parti Labour avec Corbyn en Angleterre, où le Labour a été complètement lavé par Boris. Et tu sais, non seulement lavé, là, mais tu te dis, OK, ils vont s'en remettre. Ça va te prendre quoi, 20 ans à s'en remettre? Moi, je pense qu'il aurait vécu la même chose que les démocrates avec Bernie. Là, avec Biden est quand même perçu comme étant un petit peu plus au centre, mais il y a toujours encore une frange de gauche très, très active aux États-Unis avec Ocasio-Cortez, puis le groupe des 4 femmes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Tu le vois, la pression que ces gens-là mettent sur Nancy Pelosi, qui est un peu la chef en chambre, là, la leader parlementaire, si on peut faire l'équivalent au Québec. Alors, il y a vraiment une force de gauche qui monte aux États-Unis, entre autres à cause de Bernie.
Oui, donc le burnisme, le sanderisme va survivre peut-être à Bernie Sanders. Écoute, rapidement, Adrien, il nous reste vraiment 2 minutes et demie, là, mais tous les chiffres démontrent que le confinement, ça fonctionne. On fait descendre la courbe. Le confinement, ça fonctionne. Et toi, tu persistes encore à défendre le modèle suédois.
Ben écoute, je défends pas le modèle suédois. Ce que je dis, c'est que, tu sais, je voyais récemment Jonathan Trudeau qui disait, bon, ben, tu sais, la preuve est claire, le confinement, ça marche, etc., etc. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour faire cet énoncé-là. Il y a trop de choses qu'on ne connaît pas encore. On n'a pas encore toutes les données. Et la deuxième chose,
ça marche, le confinement, on le voit, là, finalement. Là, les pays qui ont adopté le confinement, qui l'ont respecté, ils ont fait descendre la courbe.
Oui, ça, il n'y a pas de doute. Il y a deux stratégies. Il y a la stratégie, si on veut, d'atténuation, puis il y a l'espèce de stratégie d'élimination. Et dans l'histoire du monde de l'humanité, ça a toujours été la stratégie d'atténuation avec l'immunité collective qui a vaincu les virus. Là, cette fois-ci, on a une autre approche. Écoute, on va voir, parce que là, actuellement, Richard, quand on va slacker un peu les mesures de confinement, on va remettre le monde lousse dans la société, mais ces gens-là n'auront pas bâti d'anticorps, là. Et là, il y a un grand risque de réémergence du virus. Est-ce qu'on va tomber dans une espèce de yo-yo pandémique, un peu comme un accordéon, où on sort, on leur pogne, là, les policiers pognent les nerfs, on rembarque, tout le monde retourne chez eux pendant 3 mois, là, on ressort.
Non, mais moi, j'ai peur de ça, je crains ça, justement, là, qu'il y a une deuxième vague, là.
Ouais. Alors, tu sais, je viens de dire que la stratégie que très peu de pays, je l'avoue, très peu de pays ont pris. Sur le coup, ça a l'air de ne pas marcher parce qu'il y a une augmentation. Mais tu sais, je veux dire, normalement, la Suède, tu penserais que, étant donné qu'ils n'ont pas pris beaucoup de mesures de mitigation, ils ont protégé leurs vieux, là, mais tu penserais que la Suède serait complètement dévastée, là, mais ce n'est pas si pire que ça. T'sais. Alors, attendons de voir, de porter jugement. Il est trop tôt pour le faire, mais ça étant dit, tu sais, il faut se rappeler, c'est pas une question d'économie par rapport à la santé. Tu sais, je pense que il y a des gens qui ont dit, Adrien, tu parles toujours d'économie, puis tu sais, tu veux mettre l'économie à l'avant, puis t'as hâte que ça reprenne, mais c'est sûr que la santé c'est important, mais la santé, tu peux pas avoir un pays en santé dans un pays pauvre. Tu sais, tu regardes, par exemple, aux États-Unis, on est en train de dire, ben, comment ça se fait que les Noirs sont plus affectés par le COVID? Ben, c'est parce que les Noirs c'est triste à dire, mais
ils sont plus pauvres.
Donc, ils ont plus de maladies, il y a plus d'obésité, il y a plus de
non, c'est certain qu'il faut, il faut penser aussi à l'économie. C'est certain qu'il ne faut pas seulement penser à la santé. Je comprends ça. Il faut penser à l'économie. Il va falloir à un moment donné que la machine reparte. Mais comment elle va repartir? Comment on va préparer le déconfinement?
C'est une maudite bonne question. Puis je pense que moi, ce que je m'attendrais de Legault, c'est qu'il créer un groupe de travail, un task force pour le grand redémarrage. On a besoin d'avoir un task force avec des gens sur le terrain, pas nécessairement des experts en statistiques comme on a vu, ou même des experts médicaux. Oui, ça en prend, mais moi, je voudrais avoir, tu sais, des patrons d'entreprise qui connaissent la chaîne d'approvisionnement, qui savent comment est-ce que c'est compliqué de repartir ça. Tu sais,
et qui travaillent de concert avec des gens justement en santé publique, puis tout ça, comment on peut s'arrimer ensemble.
Oui, parce que là, Legault, il utilise le mot « pause », on met le Québec en pause. C'est comme si, OK, tu vas repeser sur « play », puis ça va repartir d'un coup. Non, ça ne sera pas si simple que ça. Là.
Non, mais j'aime bien ton idée d'un task force, effectivement, là, pour préparer le déconfinement, parce que tout ça est encore extrêmement flou.
Legault nous dit, OK, on va déconfiner, mais il faut garder le 2 mètres. Mais là, tu sais, je comprends pas, là, dans une garderie, comment est-ce que tu changes une couche si tu restes à 2 mètres? Comment est-ce que tu coupes des cheveux de quelqu'un si tu restes à 2 mètres?
Ben oui, construire une maison à 2 mètres, c'est pas évident. D'excellentes questions. Merci beaucoup, Adrien.
Hey, toujours un plaisir.
Merci,
Charles.
Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Je sais pas s'il y a un petit arc-en-ciel dans sa fenêtre, moi, en tout cas. Merci, Adrien.